machin et tout, personne ne dit rien.
Tu as fait toute la pince, toi?
Non, je veux plus la faire.
Pourquoi?
Parce que c'est tous des cons. Enfin, disons que... Non, je dis, en fait, c'est pas tous des cons, parce qu'il y a des bons mecs. Chez les Corses, il y a des bons. Mais il y a une minorité de gars, si tu veux, que je peux pas saquer. Ils s'imaginent que les bateaux sont à eux, ils s'imaginent que c'est les maîtres du monde, que nous, on est les étrangers, qu'on va chez eux leur prendre le pognon, le travail, le truc, le ciel, enfin, tu vois, carrément, ils te considèrent comme un intrus. Alors moi, ça m'a vraiment fait travailler comme ça. Moi, j'ai le travail à partir de celui qui sera le matin de bonne heure. Si maintenant, tu es un feignant, si toi, tu te lèves à 10h, comme le monsieur à 8h, le travail sera pour celui qui était le premier au boulot. Et puis bon, mais après, tu rentres dans des dérives politiques, enfin, après, c'est même pas à faire discuter, okay, parce que... Ils ont des idées bien arrêtées sur eux. Pour eux, nous, on est les colonisateurs. On bat juste pour éponger. Tu sais, pour, on les prend, on les presse comme un citron, les Corses. Bon, on leur prend le pognon. Oui, mais fait bon. Moi, je parle de ce que je connais, c'est pour ça. Ouais, mais après, pour le reste, c'est pareil.
Tu fais le tour, tu vois la mairie de Marseille.
Les plus méchants, les plus vindicatifs qu'il y a là-bas en Corse, les chauffeurs routiers, c'est tous des types qui ont des ardoises comme ça avec la SNCM. Et c'est les premières critiques à la SNCM. Que si, que là. Paye d'abord tes dettes. Après, on pourra discuter. Et les touristes, ils voudraient qu'ils arrivent, qu'ils disent pas un mot, qu'ils viennent se servir, mais qu'ils oublient pas de payer, de laisser le pour moi pour ça. En gros, toi, c'est ça.
Les pauvres.
Ils se plaignent que, soi-disant, les gens, ils veulent plus y aller là-bas. Mais il y en a certains, ils savent pas accueillir les clients. Tout ça, ça s'apprend. Il y a plein de problèmes comme ça.
Ici, c'est pareil.
Ouais, mais d'accord, ici, c'est pareil. Mais fait, bon, ici, si tu veux, on va dire, le petit avantage qu'il y a par rapport à la Corse, c'est que tu n'as pas payé le voyage pour la Corse. Le mec il se paye le voyage, et déjà bon mais il trouve que c'est cher, comme si c'était nous qui faisions le tarif. Nous on y est pour rien, nous les tarifs ils sont élaborés par l'office des transports là-bas en Corse. Ils décident qu'il faut, il faut tant de départ, tant de ci, tant de là, comme ça, c'est eux qui. Le cahier des charges, c'est eux qui l'ont défini. Et après, nous, on s'y adapte ou on s'y adapte pas. Alors après, une fois qu'on a le cahier des charges, on dit on peut pas. Nous voilà pour faire ça.
On veut le temps. Que ça coûte des ronds aussi, c'est une qualité, je sais pas.
Ben, un service de qualité, disons, oui, un service de qualité, puis après, bon, c'est comme si tu voyageais dans un autobus avec fauteuil Pullman et climatisation, et puis le même voyage, tu te prends une tarte chausson avec les sièges en bois et tu crèves d'eau chaude dans le bus, voilà, mais en gros, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu préfères? Pour le même prix, qu'est-ce que tu préfères? Le mec, il n'hésite pas, il dit, je prends un truc qui est climatisé. Ben voilà, chez nous, c'est pareil, mais ça, bon, c'est le même prix. Quand tu sais qu'un bateau qu'on va le bon en partie coûte 500 000 francs par jour.
Moi je trouve que si
c'est énorme. Hein.
Napoléon,
le Casanova, il coûte beaucoup moins.
Tu as entendu parler d'histoire de. C'est cette année qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'eau, là, l'embarquement.
Ouais.
Ouais.
C'est à Marseille, ça.
Ouais, deux fois.
Ouais.
Il y a eu deux décès.
Non, mais le premier, si
c'est
tu veux.
C'est...
Le premier décès, c'était en hiver. C'était en hiver, les gars. C'était un couple de personnes âgées. Ouais. Qui sortait d'un cargo, c'était le matin, il faisait nuit, et il avait plu. Et le plan chaud, si tu veux, tu as donc le quai, et pour que les bateaux puissent débarquer les véhicules, ils ont été obligés de faire un rajout, un plan chaud, ce qui fait que le bateau, donc, il s'amarre, il ouvre sa porte, il pose à la porte, le gars, il sort du plan chaud, comme ça, puis après, il reprend le quai. Mais là, comme il avait plu, c'était luisant, et la mer, c'était un miroir. Et en plus, il faisait nuit. Le type, il est sorti tranquille du bateau. C'était luisant. Il n'a pas fait gaffe que le planchon et la mer, il y avait un truc qui... Le type, il a cru que c'était le quai. Il n'a pas vu que c'était la mer. Ils ont coulé, affolés, ils sont noyés. Peut-être même qu'ils ont tapé un coup, ils sont insuqués, je ne sais pas.
Non, mais quel, lui, il a été sauvé.
Non, moi, je parle, le premier, le couple, là, où ils sont morts tous les deux. Là, le deuxième, si tu veux, moi, je sais comment ça s'est passé, puisque le gars, ils m'ont expliqué... Je comprenais pas, mais après ils m'ont dit voilà, ça s'est passé comme ça parce que.
Ils sont... Il y avait du vent.
Attends, tu permets? Bon, il y avait du vent, certes, mais ils sont obligés, au moment où il arrive un bateau qui vient s'amarrer, s'il y a un autre bateau qui est en train de débarquer ou d'embarquer des véhicules, des passagers, ils arrêtent l'embarquement ou ils arrêtent le débarquement. Le Casanova est arrivé, le Paglial est en train d'embarquer les véhicules. Le commandant était sur le planchon. C'est lui qui a arrêté l'embarquement de son bateau. Mais il a arrêté l'embarquement, si tu veux. Et la voiture, quand elle s'est arrêtée à cheval entre le quai et le planchon. Et elle aurait bien pu s'arrêter complètement sur le planchon, complètement sur le truc. Elle s'est arrêtée à cheval. Et le casal, le commandant, ben, il n'a pas maîtrisé la manœuvre comme il fallait. Il est arrivé trop fort, il a frappé dans le ponton, mais bon, une masse comme le casal, tu vois, Le mec a dit, un peu lancé, il se trompe dans sa manœuvre, il a frappé. Toutes les chaînes, donc, parce qu'il est attaché, il est amarré avec des chaînes, les maillons, ils sont gros comme ton bras, des trucs énormes. Hein. Les maillons ont explosé. Et encore, même, tu te demandes comment il n'y a pas eu de blessés. Parce qu'une chaîne qui explose, ils ont retrouvé les maillons sur le toit du hangar, pour te dire. Il y avait moins de comme ça à l'embarquement. Hein. Parce qu'il y avait ceux qui étaient dans l'embarque au Paglia, mais il y avait ceux qui attendaient pour embarquer sur le Casa. Donc il y avait peut-être 2000 passagers. Et dans le choc, donc le planchon, la force du bateau, les maillons éclatés, il s'est écarté d'un coup. La voiture, whoop, elle est tombée à l'eau. Et le gars, il a...
Avec les hélices embrassées, dans la vase et tout.
Et la voiture, ils l'ont retrouvée.
C'est du commandant.
La responsabilité, 100%, c'est la SNCM. Le commandant, certainement, il va passer un jugement. Mais enfin, la SNCM est responsable à 100%. Parce qu'après l'accident, moi, j'ai discuté avec le commandant, j'ai demandé un peu comment ça allait se passer. Les sanctions éventuelles qui pourraient être prises contre le responsable. Il a dit, bon, mais là, le commandant, lui, est responsable du navire, donc il est responsable de l'accident. Il a été entendu, donc, par la gendarmerie maritime. Ils sont venus, ils ont fait une enquête. Mais c'est la SNCM, l'employeur, qui est responsable civilement.
Et bon, lui, après, à l'intérieur de la boîte, il risque de mourir.
Mais des deux bateaux ?
D'un seul bateau, puisque c'est celui qui a tapé.
C'est celui qui a tapé.
Parce que celui qui est le palier en bas, c'est lui, le commandant, quand il a arrêté l'embarquement de son bateau, si tu veux. En plus, dans le choc, lui, il a été projeté à la mer. Il aurait pu se noyer, parce que bon, comme l'autre, il brassait, il y a quand même dans les hélices, tout ça, toi, qui brasse de l'eau. Ouais, c'est la voiture, quand elle tombe à l'eau, elle n'est pas tombée à la pique comme ça. Avec l'eau brassée, le courant que ça fait, la voiture, on retrouve peut-être 15 mètres plus loin. Et puis en plus, il y avait énormément de boue. Ça fait que les plongeurs, quand ils sont arrivés, ils ont plongé à la mort, la voiture est tombée. Mais ils l'ont pas trouvé de suite. Hein. Le type, il mettait la main comme ça, il ne voyait pas le bout de sa main. Ils ont cherché. Au bout de 45 minutes, ils ont retrouvé la voiture. Mais la femme, bien entendu, tu pensais bien, 45 minutes sous l'eau, c'était fini. Hein. Ils n'ont pas pu la remettre à la vie. Le type, il a réussi à s'en sortir. Et c'est là où j'ai pas compris pourquoi le mec, il a réussi, il s'est sauvé, pas la femme.
Parce que lui, il avait sa vitre ouverte, tandis qu'elle, elle avait dû se paniquer, la ceinture, la vitre fermée, la porte.
Je sais pas, mais moi je tombe à l'eau avec toi, bon, j'essaie de te sortir de la voiture, j'essaie pas de me sauver. Hein.
Attends, mais tu sais parce que dans un cas pareil, on connaît pas nos réactions. Hein.
Oui, mais m'a fait, moi, s'il y a des choses.
Chacun de son côté de sortir, de
bah, il y a des choses qui paraissent bizarres quand même.
Tu connais Gamba.
Gamba, ouais, ça me dit quelque chose. Un gars qui navigue, Gamba.
C'est
un Non, il a peut-être fait le cuisinier par le passé, mais je crois qu'il est barman.
Ouais, barman. Et Bruno, c'était deux frères, il y avait un blanc et un morin.
Il y en a un de la Souta aussi, Paul Philippi, je ne sais pas si tu connais.
Ça, c'est quand même une catastrophe, ça.
Tu pars pour aller en vacances et tu finis à la morgue.
Ils ont cassé un ponton, ça fait que maintenant, tu as moins de bateaux qui peuvent accoster.
Non, c'est fini, ça y est, ils ont
réparé. Bah, moi, je suis allé chercher Camille, je suis en retard et j'arrive sur la corniche et je vois le bateau où elle était, qui s'en va vers les stacks. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la manœuvre qu'il fait ? Alors, bon, moi, je pars à la Joliette, je me gare et tout, j'arrive dans la gare maritime et on entend l'annonce, étant donné qu'il manque un ponton, le bateau machin... Et fait des ronds dans l'eau pour attendre la place pour arriver, donc tu avais un retard.
Donc, ouais, en fait, il y en a deux ou trois à quai, tu pouvais plus en
là, ça y est, c'est fini. Ouais, parce qu'en plus, nous, on a un quai spécial à Algérie. Comme c'est des quais. Donc, ça fait que tu peux pas mettre ce que tu veux. Là.
Et vous, c'est les premiers de quai. Du côté corniche.
Quand tu sors du vieux port. Là,
ça, ouais, ça, c'est toute la partie donc, internationale.
Internationale.
C'est aux pierres plates. Hein. Ouais. Là où ils ont refait, là où des fois, il arrive le bateau. Bon, là, de temps en temps, ils mettent un bateau de la Corse. Mais nous, si tu veux, on est le plus souvent au 82, donc c'est celui qui est à la place de la Joliette.
Ah ouais.
Voilà, donc là, ils sont en train de tout refaire neuf.
Parce que là, tu sais où il y a les grands parkings, hein, tu as souvent le Bonaparte, là. Celui que tu vois, la plus grande place que tu vois, c'est celle où tu as... Les guichets d'embarquement et quand tu
sors. Ça, c'est.
La grande place.
Ça, c'est le 78, le 76. Enfin, après, au fond, là-bas, tu as la CMN.
Ouais,
quand tu passes par Porte Chantorac, tu commences, tu as la CMN. Après, donc, tu continues tout ce qui est là, tout du lion là. Là, tu mets quatre bateaux les uns derrière les autres.
Ouais.
Donc, ça te fait à peu près, on va dire, pas loin du kilomètre.
Donc, du 78 au 89.
76 même, 76, 78, 80, 82. Non, le 82, c'est celui où se met nous. C'est celui qui commence ça. Donc ça va être le 80, 78, 76, 74. Et la CMN, c'est 72. Mais nous, donc, on est obligé de se mettre là. Le quai, il fait comme ça. Il fait le jardin d'entonnoir. Tunisie, Algérie, on est obligé de se mettre là pour les formalités douanières. C'est... Alors, de temps en temps, on y faut y chier parce que...
C'est un bordel.
En Tunisie, on a fait en Algérie, on a fait un embarquement de 9 heures.
Non, c'est
moi qui suis rentré dans la voiture. La femme de moi l'a pillé et j'ai frappé.
Il s'est pas fait mal, hein.
Non, non, non. Moi, je l'ai pas vite.
Non,
hein.
Mais il a plus de scooter. Mais
il est naze, comme fait.
Ben, tout le bar a changé. 1500 euros de frais. Alors là, je suis malade parce que c'est aller travailler comme je le fais là, c'est la misère.
Non, mais l'assurance, elle
fait. J'ai fini à 3 heures, je suis arrivé à 5 heures.
On a 144 euros de franchise. Mais bon, il est indisponible pendant un mois au garage donc, pour réparation.
Ah, demain, je vais téléphoner quand même pour prendre un peu de nouvelles. Hein. Mais le gars, il a dit qu'il faut tout refaire. Hein.
525 ?
Ouais. Ah, il a explosé. Le même il a complètement explosé. Moi, c'est le Skyliner, le Majesty.
Ça,
le Majesty, c'est le Yamaha et le Skyliner, c'est l'MBK. C'est exactement les mêmes. Et moi, comme je vais sympathiser avec le gars de MBK, donc je vais tout le temps chez lui. Alors là, il m'a dit, bon, il faut que je commande des pièces chez Yamaha. Mais après, bon, pour le reste, la fourche, tout ça, c'est dans MBK, c'est pareil. Parce que j'ai tordu la fourche. Il a fallu changer la fourche, le garde-boue, les phares, les clignotants. Il a fallu changer donc toute la... tout le carénage, il faut changer l'intérieur aussi qui a explosé.
C'est bien popé quand même.
À 30 à l'heure, mais bon, la voiture c'était une multipla, c'était un mur. J'ai frappé.
Tu as frappé toi aussi?
Non, moi non. Ben non, moi j'ai freiné, ouais, le scooter il s'est écrasé, moi ça y est, je suis passé sous la fin. La barre est passée sous le pare-choc, parce qu'elle était droite. Et en frappant, comme il s'est écrasé, la roue est passée sous le pare-choc. Donc je lui ai enfoncé le pare-choc et sur le pare-choc elle avait des radars de recul, tu sais. J'ai frappé le mur du radar, et un radar qui a explosé. Et l'avant, le museau, comme la roue est passée sous le garde-boue, l'avant est venu taper dans la malle. En tapant dans la malle, elle a explosé. Ça fait un bruit impressionnant. Disloqué il était. Mais en fait, je roulais quand même avec. Hein. Le gars il m'a dit tu peux rouler, mais fais sois prudent. Je me suis servi la journée. Le soir, je l'ai mené. Depuis, je ne l'ai plus. Mais c'est vrai que là, cet après-midi, à 3h, j'avais fini. J'étais content et j'ai dit bon, allez. Alors, je lui téléphone pour savoir que l'heure finissait. Elle m'a dit je finis, c'est 5h moins bien. 5h moins bien. Et j'ai dit bon, je vais essayer de rentrer en bus. Puis après, le copain me dit ah, ben écoute, j'ai une course à faire, je te récupère à 4h, je te ramène.
Tout le temps.
Et puis après, bon, il a eu un contre-temps, il m'a dit, bon, écoute, je peux te ramener, mais que jusqu'au Faro. Bon, j'ai dit, ça va, tu m'as toujours avancé. Alors donc, ça fait que je suis allé la voir au Faro, j'ai attendu pendant une demi-heure qu'elle sorte de travailler. J'ai perdu l'après-midi, alors que j'ai plein de trucs à faire. Hein.
Tu as attendu une demi-heure, tu as perdu l'après-midi, putain, hein, tu fais des réductions, toi.
Eh oui, mais attends, de 3h de l'après-midi, j'avais fini à 3h de l'après-midi. On est arrivé à la maison, c'était quelle heure? 6h moins le quart, presque. Ouais. Parce qu'en plus... Je sais pas ce qu'il y avait, une merde là qui bloquait la rue Charras, obligé de prendre la corniche avec la panique, tout ça. Je suis allé mis plus d'une heure pour venir. Donc ça fait que tu as presque mis 3 heures pour venir dans la Joliette. À la limite, je viens à pied, ça va aussi vite.
Je t'ai dit, prends le bus.
Ça me gonfle, tu le sais, ça me nifle de prendre le bus, ça me nifle.
Prends le métro.
J'aime pas prendre le métro, j'aime pas prendre le bus, ça me gonfle.
Jusqu'à Sainte-Marguerite.
Là, il y a l'arrêt de bus devant la maison, 44. Rond-point du Prado. Bah, rond-point du Prado, après rond-point du Prado, je vais à Castellane je change, et je prends celui qui va jusqu'à la Joliette.
Mais là, il vaut mieux prendre le métro. Hein.
Oui, mais je prends le métro, voilà, mais le métro du rond-point du Prado,
ouais,
soit je change à Saint-Charles. Mais c'est plus facile de changer à Castellane qu'à Saint-Charles.
Saint-Charles, c'est la merde.
Ouais, parce que la dernière fois, je me suis trompé, moi, pour te dire, comme je prends souvent le métro, je me trompe, et je voulais revenir en direction du Vieux-Port. Parce que j'étais passé, je ne sais pas quelle ligne j'avais pris. Je me suis trompé de quai. Alors, je voulais revenir sur le Vieux-Port, puis bon, normalement, voilà, normalement, après la gare Saint-Charles, il y avait Colbert. Mm. Là, je vois une station, et je dis, tiens, c'est bizarre.
C'est
ce que j'avais à faire. Ils ont fait une nouvelle station. Et j'ai pas entendu parler dans le journal qu'il y avait une nouvelle station.
C'est sur la ligne 2.
Continue. Putain, ils ont fait combien de stations, là? Ils ont fait le crochet, là. Je comprenais pas, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est où?
Mais tu regardes pas quand même le nom?
Non, je comprenais pas. Puis, quand, à la troisième station, quand je me suis retrouvé en haut, donc, à Longchamp.
Et ouais, voilà.
Là, j'ai dit, je crois qu'il y a un problème. Alors là, je suis descendu. Il y avait des gens à rigoler. J'ai dit, mais dans quelle direction on va, là? Je vais aller au Vieux-Port. Il me dit, vous êtes complètement l'opposé, monsieur. Il faut prendre l'autre. Bon, 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 bon. Ils étaient morts d'arrière. Je ne parle jamais, j'ai dit, moi, le maître.
Le Vieux-Port Joliette, c'est la station d'après,
non? Non, Vieux-Port, Colbert, Saint-Charles. Et quand tu vas à la Joliette, c'est Saint-Charles, Jules Guesde, Joliette. Après Joliette, je sais pas, je suis allé être là-bas, là, du côté de, du boulevard de Briançon, là, c'est, fait presque le terminus.
Ouais, à Aix, Marseille, quand j'étais à Marseille, je prenais que ça, hein. J'avais la voiture, hein, je sais plus.
Non, si tu prends que le métro, c'est agréable. Parce que le métro, t'as pas d'embouteillage, rien.
C'est facile, moi.
Et si tu prends le bus.
J'ai acheté là, j'allais à Colbert,
en plus, là, il y a tous les minots, alors, il y a ceux qui, il fait chaud, il y en a qui lèvent le bras, ils puent, il y a tout, ah, ça me gonfle.
Hein.
Pas histoire de bourgeois, c'est pas. Putain, là, écoute-moi, des fois, je traverse en apnée. Je pars de mon bureau, je monte jusqu'à la cuisine, et il y a trois étages à monter. Là, tu es arrivé, tu es tout rouge, qu'est-ce qu'il y a?
Dans les bateaux, franchement, ça sent les pieds, la vomi.
Ça sent.
Dès qu'il y a de la mer, ça sent le débris.
C'est impressionnant, l'odeur. C'est indescriptible, cette odeur. Qu'est-ce qu'il y avait?
Un camion de cochon sur un cargo, tu te rappelles? Le matin, le collègue, il était malade, il supportait pas, en plus, on avait gueule de bois.
Il a vomi.
Il est sorti du bateau, il y avait les douaniers, il a ouvert la porte, il est sorti, alors des douaniers, évidemment, circuler, là. Qu'est-ce qu'on fait? Putain, alors, et on est allé à Porto Vecchio le jour-là, de Bastia à Porto Vecchio, tous les dimanches, on s'arrêtait, il est gueulé, quoi. Il a dégueulé sur le monument aux morts, tu te rappelles, à Solenza. Oh là là, le carnage. Et un camion de cochon, ça tue. Parce que tu attends quand même, le temps que tu descends, qui s'amarre et tout, tu attends un moment. Donc cette odeur, déjà, était comme ça. Après, c'est toujours trois cons qui allument les gaz et tout.
Pour faire le lien. Attendez qu'on vous donne le feu vert pour démarrer, pour lancer le moteur.
Ça me fout.
Les Arabes, écoute-moi, dès qu'ils ouvrent la porte sur le bateau, ils s'imaginent que toutes les voitures vont sortir en même temps. Mais comme c'est sur trois ponts, alors celui qui est en haut, il n'est pas encore sorti.
Mais c'est interdit d'allumer ça.
C'est bien simple, le premier de type qui sort, il est à Avignon, que là, tu es toujours dans le bateau. Voilà, en gros, hein, moi, je te fais une image, mais c'est à peu près ça. Eh bien, les gars, ils n'ont pas compris. Alors, ils commencent à klaxonner comme des fous. Après, alors, il y a ceux qui arrivent à la bourre. Le type, lui, il n'est pas pressé ou il reste endormi. Alors, les types, ils veulent passer, ils ne peuvent pas. Ils sont là, ils braquent. Alors, ils essayent de déboîter l'autre avec la voiture, ils l'empêchent de déboîter. Ils forcent le passage, ils s'accrochent, ils se disputent. Ça klaxonne, ça hurle. Écoute-moi, c'est folklorique.
Ah, le débarquement?
Ouais. Tunis. Et au retour, non, enfin, à Marseille ou à Tunis, ça c'est pareil. Mais au retour, je veux dire, là, les lacs, quand on a fait le Marseille-Alger, tu vois, les trabanistes, comme on appelle, là, ceux qui font que ça. Ils remplissent les voitures, ils vont à Alger vendre, ils reviennent, ils achètent, ils font que ça. Ils font 2-3 voyages par mois, c'est impressionnant. Mais les voitures, normalement, tu dois même pas rouler avec.
Ah bah moi j'ai les hélices à bagnole.
Et quand ils arrivent, les types ils ont donc une toise, et c'est toujours pareil, bon, parce que maintenant tu payes la hauteur. Alors la voiture elle est pas grande, mais bon, si la voiture il te met 2 étages sur la voiture, les garages. On est obligé de les mettre dans des endroits spéciaux parce que sinon ils ne passent plus dessous les ponts.
Il y a des contrôles sanitaires, je vais te demander, à la montée du bateau à Alger, par exemple.
Contrôle sanitaire, non, il n'y a rien.
Non, c'est fini, il n'y a plus
de. Parce que Marie-Claire, la sœur de ma maman, elle nous disait que depuis le tremblement de terre à Alger, ils ont des putains de problèmes d'hygiène. Les sanitaires, il y a des cas de test, des cas de...
Enfin, non, c'est fini, il n'y a plus rien.
Ouais. Le tremblement de terre, j'étais à Alger, moi, quand il y a eu le tremblement de terre. On venait de partir. Le tremblement de terre, il a eu lieu le soir, je crois, à 8h. Nous, on est partis, ça faisait 2 heures qu'on était partis d'Alger quand il y a eu le tremblement de terre.
C'est
entière mer. Ouais, c'est impressionnant. J'aurais jamais cru que ça fasse comme ça.
Il y a une vague ou quoi?
Il y a une vague, si tu veux, bon, mais ça a été une lame de fond. En surface, ça ne tient rien. C'est l'onde de choc, donc elle s'est propagée sous la mer. Mais le son, tu sais qu'il va plus vite sous l'eau que dans l'air.
Il vous a rattrapé?
Il nous a rattrapé et il a arrêté le bateau. Incroyable, mais vrai.
Comment ça?
Moi j'étais situé avec le cambusier, on était en bas en train de compter la cave. Donc on était tous les deux. Et d'un coup, le bateau il s'est mis à trembler, à vibrer, tu sais. Mais vibrer, tu vois, comme quand on arrive, qu'on fait une manœuvre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Alors, comme on a plein de problèmes techniques avec la machine, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut un exercice, c'est quoi là? On est en train de, on aurait dit, tu vois, qu'on était en train de battre en arrière. Le bateau s'est mis à vibrer, tu vois, d'un coup, mais. J'ai dit, ma foi, j'ai dit, à tous les coups, il y a encore une merde. Ou alors, j'ai dit, c'est pour une connerie, un filon, n'importe quoi, parce que ça nous est arrivé des fois, tu vois, de prendre des filets dérivants dans les hélices. J'ai dit, quand même, je vais voir, parce qu'une fois, on avait pris des trucs dans les hélices et tu l'entends taper contre la coque. Et comme nous, on était au cul du bateau, je suis allé donc à l'endroit où il y a les hélices, je suis allé écouter, j'entendais rien. Le moteur, après, tu vois, bon, il est reparti normalement. J'ai dit, ma foi, ils ont dû faire une. Ou alors, j'ai dit, peut-être, c'est quand on attelle, parce que si tu veux, le bateau, quand on est taqué, on fait tourner les groupes électrogènes avec des moteurs, et après, quand on est en mer, on arrête les groupes, on les attelle au moteur pour faire l'électricité. C'est un peu comme tu dirais
l'alternateur.
Et si tu veux, quand. On attelle donc le moteur, les moteurs donc ils perdent de la puissance parce que bon il faut quand même entraîner un truc électrique, tu vois, donc j'ai dit peut-être que c'est ça. Le téléphone sonne, la passerelle, on dit comme ça, est-ce que vous avez entendu quelque chose de spécial en bas la cambuse? On dit ben la fois on a vibré mais il n'y a pas de bruit, rien, non, il n'y a rien de spécial. Je vais retourner écouter mais il n'y a rien. Le bateau est descendu, il est allé faire la ronde, regardez, on a dit peut-être qu'on a tapé des cétacés, enfin, on ne comprenait pas. Mais carrément, mais ça a duré bien 10 secondes, mais impressionnant c'était. Et le lendemain matin, à 5h30, moi j'allume la télévision, je regarde la Euronews, tremblement de terre à Alger. Oh putain! Mais il y a un collègue, lui, qui avait eu, il était au Mexique, il y avait eu un tremblement de terre au Mexique, et il avait ressenti les effets comme ça. Et lui, le soir, il disait, ouais, c'est le tremblement de terre. Moi, j'ai dit, arrête, on ne parle pas encore de tremblement de terre. On est en mer, qu'est-ce que ça peut trembler? J'ai dit, tu ne prends pas les cons. Non, non, je te jure, quand tu es en mer, tremblement de terre, tu nous expliquais, mais nous, on le prenait pour un idiot. Après, quand on a vu ce qui s'était passé à Alger, puis qu'on a vu ce qui s'était passé à Palma de Mallorca, on fait là-bas, au Baléares, parce que le raz-de-marée, il est allé là-bas. Il a mis les bateaux sur le quai, hein, au Baléares. On n'en a pas entendu parler de ça. Mais il y a eu une déferlante, parce que nous, donc, l'onde de choc nous a rattrapés.
Et
la pression de l'eau, si tu veux, sur les hélices, ça, c'est comme si on avait mis quelque chose pour empêcher les hélices de tourner. Et ça a ralenti. Mais comme nous, on avait quand même quatre moteurs qui tournaient, ça fait qu'on avait quand même la puissance pour pas que le moteur s'arrête.
Après, l'onde, elle va jusqu'à la prochaine terre.
Et l'onde, donc, elle est passée dessous le bateau, comme ça.
Tête, ben, ça fait la vague. Quoi.
Nous, on a rien senti.
Et donc au Baléares, ils sont pris une déferlante.
Ouais. Et il y avait un gros cargo qui était derrière nous, qui nous suivait. Lui, carrément, ça y arrêtait le moteur. Parce qu'il était moins puissant que nous, donc il a carrément un blackout, ils se sont retrouvés. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé.
Et ils ont pu redémarrer.
Oui, après, bon, le moteur, c'est comme si tu veux, tu cales, voilà, donc tu tiens la vitesse et tu mets le frein à main, boum, la voiture, elle s'arrête. Là, c'est pareil. Donc. C'est comme si on te cale les roues, que la voiture, elle ne peut plus avancer. Là, donc, la pression de l'eau sur les hélices, ça arrête le moteur. Et moi, je te dis, j'ai halluciné quand on m'a raconté ça. Il y a les gars, c'est pas possible. Un tremblement de terre à mer, c'est pas possible. Et puis, je te garantis que c'est possible. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir un tremblement de terre.
Tremblement de mer.
Mais nous, on avait entendu qu'il y avait eu des dégâts, j'ai tout ça. Genre, on a dit peut-être qu'il y a des bateaux qui ont morflé ou quoi. On est arrivé, donc on était tous, si tu veux, un peu sur les dames. Parce qu'on avait qu'une hâte, c'est de retourner à Alger voir ce qu'il y avait exactement. Parce qu'on a vu des photos, enfin, on a vu le reportage. Et finalement, quand tu arrives à Alger, il n'y avait rien. Il y avait quelques maisons qui avaient dû se fissurer et tout ça, mais on ne voyait rien vraiment, tu vois, un tremblement de terre classique, comme quand il y a eu la catastrophe, qu'il y a eu les torrents de boue qui avaient emporté la moitié de la Casbah. Là, on le voyait, c'était en face de le port, donc on le voyait très bien, tu vois. C'était apocalypse. C'était apocalypse, ça. Oh, 8 mètres de boue.
C'est pas Alger même où ça a été le plus dévastateur, non plus.
C'est dans les villages, d'ailleurs, dans les villages autour, mais Rubin, ouais, il est là. Ben oui, il y avait un truc aussi à El Asnam. Ça remonte à des années en arrière.
Ça
me parle. Il y a eu un méchant dans la terre.
Mais c'était en Algérie,
ça ? À Algérie, c'est sur une faille.
De toute façon, nous, on s'en prend dans ici aussi.
Et la messe, tout ça, on y est. Et Romain, on a bien eu le tremblement de terre.
Romain ?
Ouais, en février. Bon,
c'est pas des zones à risque.
Non, mais elle nous a dit c'est impressionnant parce qu'il y a tout
c'est
qui vibre.
C'est pas des zones à risque.
Bah, celui qu'on avait eu avec, c'est une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Tiens, moi je me rappelle.
Ouais.
Ouais.
Ah, c'est vrai que vous avez encore toute la route là.
Ouais. J'espère qu'on mettra la main en même temps.
Ah bah là, il n'y a plus de circulation maintenant.
Ah, par contre, il faut faire gaffe parce que des fois, ils disent ça, c'est qu'on a.
Vous êtes venu avec quelle voiture alors?
La voiture de Steph qui a une mission de.
Non, mais là, en longeant le champ de course, des fois, ils se mettent sur le parking du Jeune Casino là, avec le radar. C'est limité à 50. Si tu reçois un T10, paf, il t'en pègue. Tu sais, ça va vite à la nuit. Il y a des gueules, là, tu accélères un peu. D'ici jusqu'à la sortie, jusqu'à l'entrée d'autoroute, 50, c'est, on va conseiller.
Parce que l'autoroute, là, en ce moment, putain, entre Sévenel, ils s'y mettent la nuit.
D'ici, ben, à Corniche. Hein. Tu prends la Corniche, et puis bon, après, je remonte au boulevard des Dames.
Hein. Là, moi, je suis passé par.
Corniche, tunnel. Tunnel Vieux-Port.
Ouais, mais bon, t'as vu la circulation qu'il y a.
Mais ouais, mais
bon. Pour rien, si t'es passé par Bordeaux et Paradis, tu t'es compliqué la vie. Hein.
Mais le mieux, enfin, il faut connaître. Hein. Parce que normalement, tu prends la Corniche, tu tournes à montée du Roucasse Blanc.
Ouais.
Et après, tu prends, comme pour aller à l'école de Camille, là, tu rejoins le boulevard Notre-Dame Vauban. Tu descends le boulevard Notre-Dame, tu coupes Pierre Puget et tu arrives sur le vieux port. Et
je suis une citadelle.
C'est à côté du tunnel. Hein. Ou même, tu prends la Corniche. Et tu tournes pour rejoindre Andou, là où elle allait à l'école, la rue Pierre Mourin. Tu montes la rue, tu vas toujours tout droit, tu traverses jusqu'à Andoum. Et Andoum, il y a une pharmacie qui fait l'angle, tu descends cette rue, tu arrives au boulevard de la Corderie, tu es à 2 mètres de l'entrée du tunnel.
De la rampe Saint-Maurice. Ouais. Enfin, là, le soir, ça va, le soir, il n'y a pas de circulation.
Le soir, tu peux passer n'importe où. Ça
devrait
être bon.
Là, par la Corniche, alors c'est mieux quand même.
Ouais. C'est direct la Corniche.
Enfin, le plus rapide, j'en sais rien. Mais...
La Bouine de Feu Rouge. Déjà. Si tu passes par centre-ville, tu vas te prendre tous les Feux Rouges. Et puis bon, tu vas pas plus vite en passant par centre-ville.
En plus, tu as vu que maintenant ils vont installer
des radars
dans les boîtes.
Là, ils sont sur l'autoroute pour aller à Nice. Il y en a 5 ou 6 sur l'autoroute.
Il vaut mieux qu'ils les mettent dans des boîtes blindées parce que tu vois les mecs comme ils vont y faire pouf pouf. Coup de feu qu'ils vont y balancer.
Là, c'est sur l'autoroute, il n'y a pas d'accès, notamment il y en a un ou deux qui sont sur la.
En descendant à Nice, ouais, il y en a un là. Putain, celui-là, tout le monde sait où il est. Hein. Mais des fois, tu te fais baiser. Des fois, tu te fais avoir.
Il y en a trois, ils sont sur 1 km, il y en a trois, tu le sais. Hein. C'est dans la partie où il y a les virages, c'est sinueux, ça descend.
Tiens, Romain, les enfants, ils les mettent dans les endroits où.
Ouais, d'un autre côté, les Français sont bien cons d'attendre ça pour essayer de.
Mais maintenant, ça va être la répression totale.
Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait un flic derrière chaque pilier pour que les gens respectent un peu moins de ce même.
Ils ont dit qu'à Marseille, il y avait beaucoup moins d'infractions que par la passée. Hein.
Ben ouais, mais bon,
la peur du gendarme.
Et qui c'est qui se fait arrêter?
C'est pas vrai, hein, les infractions.
Ben, ils l'ont dit à la journée.
Au centre-ville. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraventions qui sont mises. Hein.
Après, il y a les nombres de morts qui a baissé là, mais putain, j'ai capté un truc, ils ont baissé, tu as vu qu'ils ont changé la méthode de comptage des morts.
Ouais.
Et mais ils prennent en compte, si tu as un accident de voiture, que tu es dans le coma, eh ben, si tu meurs avant 48 heures, tu es mort de la route. Et avant, c'était 72 heures. Donc ils comptaient un délai vachement plus long. Mais maintenant, à partir de 48 heures. Donc si au bout de 48 heures, tu es toujours pas mort et tu es dans le coma et tu meurs, encore 48 heures après, ben, tu n'es pas mort de l'accident de la route. Donc du coup, ça a baissé le temps de temps. Je veux bien qu'il y en ait moins. Mais c'est comme les chiffres du chômage où des coups, tu changes la méthode de comptage et
tu dis qu'il y en a moins. Ce que tu veux
avec. C'est hallucinant. Les statistiques, c'est vraiment un truc de...
Les chiffres, tu leur fais dire ce que tu as mis leur faire dire.
Non, ça vaut pas.
C'est où la poubelle?
Dans le garage. La petite poubelle rouge.
À côté... Alors voilà. Juste à ta gauche.
Tu au niveau du machin.
Si, je mets un coup de...
Il faut sortir les deux voitures. L'Austin est garé devant.
Mais l'Austin, toi, il faut l'enlever, puisque madame Maté, je sors le premier.
C'est le rouleau qui finit.